le journal de la culture Zoé Sfez.
Bonjour.
Vous le consacrez aujourd'hui au premier numéro du festival Viva Villa qui a lieu à Paris ce week-end.
Alors en fait, c'est un numéro zéro pour ce festival qui, comme son nom l'indique, presque présente pour la toute première fois des œuvres choisies des pensionnaires des trois résidences d'artistes que la France à l'étranger, à savoir donc l'Académie française de Rome, qu'on appelle plus couramment la Villa Médicis, et les deux autres un peu moins célèbres, la Casa de Velázquez à Madrid, implantée depuis plus d'un siècle, et la Villa Kujoyama à Kyoto au Japon, qui existe depuis plus de 25 ans et qui vient de rouvrir. Trois villas qui dépendent de trois ministères différents et qui fonctionnent sur le modèle donc de la résidence d'artistes mais aussi de chercheurs, avec parfois des modalités un peu particulières, des institutions extrêmement puissantes symboliquement mais peu connues, parfois même en ces temps de crise, mal perçues par le grand public, notamment parce qu'on ne sait absolument pas ce qui s'y fait. Et ce festival, c'est la première occasion, aussi fou que ça puisse paraître, de découvrir concrètement le travail issu de ces institutions. Et il était temps, indique Muriel Mayette-Holz, directrice de la Villa Médicis.
D'abord, répondre à la question à quoi ça sert. Et avec mes homologues, nous souhaitons partager avec le public français, ramener à la maison les travaux des pensionnaires et les faire connaître pour que on réponde concrètement à cette question. Eh bien, ça sert à les laisser à toute la jeune génération de créateurs contemporains l'espace pour grandir, l'espace pour s'exprimer, le recul de l'inspiration. La deuxième raison, c'est de témoigner d'une génération. Parce que s'ils se sont isolés à un moment donné ou décentrés à Kyoto, à Madrid ou à Rome, ils représentent la grande création de notre futur, nos grands artistes de demain. Nous abritons des talents. Ils sont sélectionnés avec des concours très difficiles. Nous en abritons chacun à peu près 15. Donc il s'agit là entre 45 à 50 nouveaux artistes à partager avec le public.
Alors cette génération d'artistes sortis des villas, en fait, on a souvent du mal à l'identifier, même s'il y a beaucoup d'auteurs, lauréats de prix littéraires, plasticiens, dont on découvre sur leur CV, au moment où ils gagnent des prix, qu'eh bien, ils ont fait partie de ces villas. Tout ça, c'est faute d'un manque de suivi. Les artistes, il faut le savoir, n'ont pas d'obligation de résultat, et souvent, leur passage dans ces villas correspond à un renouvellement de leur recherche qui ne portera ses fruits que bien plus tard. C'est aussi cette absence d'obligation de résultat qui fait l'intérêt de ces villas, explique la plasticienne suisse Anna-Katerina Schedegger. Elle est exposée dans les jardins du Grand Palais ce week-end. Elle sort d'une résidence d'un an à la Casa de Velázquez. Elle explique que c'est un vrai luxe. Et de ce point de vue, du coup, ce festival représente pour elle un petit défi.
C'est une question difficile parce qu'on sent quand même qu'on est là pour défendre l'existence de ces institutions qui sont finalement des choses extraordinaires et que c'est important que ça reste. Donc effectivement, il y a cette notion politique qui n'est pas évidente à gérer. Donc il faut se dire comment j'expose, qu'est-ce que je veux dire, quel est le travail que j'amène. Là, c'est exceptionnel. Moi, je peux montrer mon travail. Ça, je suis très contente que c'est à l'extérieur, sur la place du Palais Royal. Ça, c'est quand même extraordinaire.
La création de ce festival Viva Villa intervient alors que se pose la question de savoir si le modèle de ce villa n'est pas tout aujourd'hui dépassé.
Oui, alors la Villa Médicis fête ses 350 ans cette année, la Casa Velázquez a un siècle. Lors d'une table ronde organisée hier autour du concept de résidence d'artistes, les anciens directeurs, plusieurs artistes ont souligné qu'il s'agit de monuments superbes mais complètement inadaptés. Aujourd'hui, il n'y a pas de matériel du numérique, il y a souvent des ateliers de gravure de médailles dont vous vous doutez qu'on ne s'en sert plus beaucoup. La démarche très humaniste qui consistait à envoyer ces artistes voir du pays, se dépayser, à faire diplomatie par l'art, semble à l'heure de la mondialisation et d'une certaine forme de déclin peut-être de la France, peut-être passé. D'ailleurs, la prochaine résidence d'artistes dans laquelle la France va investir, elle est ici, à Clichy-Montfermeil, dans le 93, comme si le dépaysement devait avoir lieu un peu ailleurs. Alors, est-ce que c'est un désaveu de ce modèle? Est-il encore pertinent? J'ai posé la question à Christian Merliot, directeur de la Villa Kujoyama à Kyoto, qui a rouvert en 2014 sur un modèle rénové.
Par exemple, pour le Japon, qui est un pays que je connais bien, il n'existe aucun programme qui soit l'équivalent de l'une des trois grandes résidences que la France alimente à l'étranger depuis des années. Moi, je pense qu'il faut rendre quand même honneur à un pays qui a su développer de manière continue et constante des lieux dans lesquels les artistes peuvent déposer une partie de leur travail et avoir le temps de repenser les perspectives de ce qu'ils sont en train de faire. Tous les pays n'ont pas cette constance et la France est en train de développer un nouveau programme, Clichy-Montfermeil. Je pense que ce qu'on voudrait voir adapté dans chacun de nos programmes de résidence est en train simplement d'émerger sous une autre forme, ici, sur le territoire du Grand Paris. Ça n'invalide pas les modèles précédents, ça les rend simplement attentifs, qui est quand même une chose extrêmement honorable pour un pays, de pouvoir continuer à développer ses institutions avec des partenariats privés, avec de l'argent qui vient de mécènes. Néanmoins, ces institutions continuent à exister, c'est important.
Voilà, alors cette Ce festival Viva Villa, il a lieu donc jusqu'au 18 septembre, calé un peu sur les journées du patrimoine, mais l'année prochaine, il aura droit à une vraie édition déployée sur une semaine, toujours au mois de septembre.
Tout de suite, on passe au bref.
Avec l'ouverture de la salle parisienne de l'Élysée-Montmartre, qui a rouvert hier avec un concert de M, celle qui existe depuis 1807, qui avait fermé à cause d'un incendie en 2011. C'est le producteur du cinéma Abel Namias qui l'a récupéré et rénové pour 8 millions d'euros. Il proposera une programmation rock qui sera directement en concurrence avec la salle Pleyel, qui, elle, rouvre dans quelques jours avec en tête d'affiche Benjamin Biolay.
Hommage ce dimanche au passeur de cinéma Claude Jean-Philippe.
On a parlé de ce grand témoin du cinéma français qui est mort ce week-end dernier. Et bien dimanche, le cinéma L'Arlequin à Paris, rue de Rennes, où il animait depuis 20 ans un ciné-club, lui rend hommage à 11h avec une séance de projection d'archives de souvenirs et aussi du film Partie de campagne, qui était son film préféré, film de Jean Renoir.